de Zeus.
Bonjour.
Qu'est-ce qui se passe?
Je ne peux pas vous le dire.
Je vous demande une seconde le temps d'installer le prochain film.
Vous me recevez à vous parler.
Qui êtes-vous?
Je n'en sais rien. Je compte bien le découvrir.
Fini la rigolade.
Cinérama.
Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Qu'est-ce que vous faites?
Votre émission hebdomadaire sur le cinéma.
Vous avez une autorisation?
Bien entendu, j'en ai une.
Cinérama.
Ce nom, je l'encaisse pas.
Ben ça, c'est ton problème.
Chronique, blind test, interview.
Eh ben, c'est génial.
Amusez-vous bien.
C'est gentil.
Tout le plaisir est pour moi.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, une émission consacrée au cinéma. Nous avons une demi-heure pour vous parler de certains films qui sont sur les écrans et puis aussi pour jouer avec la filmographie de Scarlett Johansson. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu le faire la semaine dernière où nous avons parlé de son premier film, Eleanor the Great. Donc c'est l'occasion, eh bien, cette fois-ci, d'y remédier. Et puis nous écouterons une réalisatrice passionnante, Kauter Benania, pour le film La Voix de In Rajab, qui a enflammé le dernier festival de Venise. Et toi, Guillaume, tu as deux films?
Oui, je vais vous parler du vrai faux fun footage Shelby Hawks et la ressortie sur tout le territoire en grande pompe de The Killer, le chef-d'œuvre de John Woo.
Mais nous allons commencer avec le grand héros des Misérables qui est sur les écrans. Nous parlons de Jean Valjean.
Pourquoi vous pensez qu'on ne prend pas le cinéma au sérieux?
Cinérama.
Eh oui, on est comme on est.
Je veux pas toi ici, assassin!
J'ai passé 19 ans au bagne. Je m'appelle Jean Valjean.
Il y aurait entre 100 et 160 adaptations de Victor Hugo au cinéma, selon les sources, dont une trentaine de longs métrages adaptant l'unique Les Misérables. Jean Valjean, sorti sur les écrans le 19 novembre, vient donc s'ajouter à cette longue liste. Le titre ne laisse aucun doute sur l'intention d'Éric Besnard, qui met au centre son personnage principal, donc interprété par Grégory Gadebois. Et on peut même commencer par là, hein, quelle riche idée d'avoir choisi ce comédien tout en force et en intériorité pour camper un ex-qui recouvre la liberté dans une contrée où l'on se méfie de lui pour ne pas dire qu'on le dénigre et le repousse. Gadebois a rejoint ainsi Jean Gabin, Lino Ventura, Liam Neeson ou encore Hugh Jackman qui ont eux aussi incarné le plus célèbre des forçats.
Madame Magloire, vous mettrez un couvert de plus.
Avez-vous entendu? Je suis un forçat. 5 ans pour vol avec effraction.
Au travail.
14 pour avoir tenté de s'échapper 4 fois.
Le feu vous réchauffera.
Ce que souligne aussi le titre, hein, c'est le choix du réalisateur de se concentrer donc sur le cœur de roman, le parcours de Jean Valjean, de forçat à homme juste. Alors que l'œuvre chorale de Victor Hugo fait intervenir Cosette, Javert, Marius, Fantine ou les Thénardier, Éric Besnard resserre son récit donc sur le moment où Valjean, encore hanté par la colère, est comme forcé d'entrevoir la justice. Ce moment, tout le monde le connaît, le vol de l'argenterie de Monseigneur Myriel. Alors surprise au casting, Bernard Campan incarne l'évêque surnommé Bienvenu. L'ex-inconnu qu'on réduit trop souvent à la comédie apporte ici une certaine légèreté au prélat de Digne qui vit comme un simple curé. A noter qu'Éric Besnard s'éloigne quelque peu de Hugo, s'inspirant pour ce personnage de la figure de l'essayiste et romancier Pierre Rabhi. Et les comédiens comptent beaucoup hein, d'ailleurs dans la réussite du film, autant poursuivre sur eux. Il y a Alexandra Lamy qui se fond sous les traits de la bonne du curé, disparaissant presque derrière son rôle, tandis qu'Isabelle Carré, la sœur de l'évêque, joue tout en retenue.
Vous êtes qui?
Un prêtre.
Vous vous rendez compte que nous ne savons rien de lui? Moi je dis qu'il faut prévenir les gendarmes.
Monsieur est notre invité.
Les pauvres sont pas heureux.
L'homme est parti, l'argenterie volée. Je vous l'avais dit, monseigneur. Ces hommes-là sont des monstres.
Les couverts en argent. Ces couverts viennent bien d'ici, mais ils ont été offerts.
Pour ce film volontairement dépouillé, Éric Besnard s'attache aux deux premiers livres, hein, Des Misérables, Injuste et La Chute. Deux figures majeures dominent. Jean Valjean, bien sûr, qui sort du bagne après 15 années passées à travailler comme un forçat, tentant à 4 reprises de s'évader, ce qui a alourdi sa peine initiale, prononcé, on le rappelle, pour un vol de pain. Le bagne l'a condamné donc à une forme d'aigreur et de colère hein, envers ses semblables. Et lorsque toutes les portes se ferment, eh bien seule celle de l'évêque de Digne s'ouvre, lui qui vit dans la pauvreté, aux côtés de sa sœur et de sa servante, au service des démunis. Quand il n'a pas d'argent, il côtoie les riches. Quand il en a, il le donne aux pauvres. Face à Valjean, il devient une sorte de guide spirituel montrant la voie par l'exemple. Valjean le vole, mais il ne le condamne pas. Il lui demande plutôt de faire une promesse, que le profit du vol symboles servent au bien. De grandes idées, Victor Hugo, évidemment.
Je n'ai pas toujours été l'homme que je suis aujourd'hui.
Et l'histoire d'un homme n'est pas seulement l'histoire d'un homme. Elle est aussi celle de ceux qu'il croise.
Que faites-vous là, mon ami ?
Ceux-là font bien plus que montrer le chemin. Ils nous rendent l'innocence.
Je vous dis que je suis un forçat, vous m'appelez monsieur. Qu'est-ce qui vous dit que j'ai pas assassiné ?
Faites une bonne nuit, monsieur.
En termes de mise en scène, Éric Besnard fait preuve de simplicité. Il suit Hugo presque dans le texte, hein, sans ruse temporelle, avec quelques éléments de voix off pour éclairer le récit à partir des mots mêmes du roman. Alors on pourrait craindre une posture scolaire, mais il n'en est rien. D'abord parce que l'histoire de Jean Valjean est redoutable, hein, et que les mots de Hugo sont inspirants. Mieux vaut ne jamais les trahir. Ensuite parce que le réalisateur nous emmène en moyenne montagne dans de petits massifs calcaires battus par le vent et la pluie. La grisaille domine, alors rien de solaire sinon le récit qui se révèle. Même choix pour le bagne, situé cette fois-ci eh bien, dans une carrière de pierre. La minéralité l'emporte, comme s'il existait là un déterminisme social inébranlable. Et pourtant, eh bien, c'est tout le brio d'Hugo, hein, tout en décrivant la violence faite aux plus vulnérables. Il défend l'espoir. Ce Jean Valjean d'Éric Besnard est à voir au cinéma depuis déjà le 19 novembre et je vous le recommande.
La grande question, c'est de savoir si Bernard Campan fera mieux que dans sa première adaptation des Misérables, Les Miséroïdes.
Ah oui, avec Les Inconnus, effectivement. Et à noter que ce Jean Valjean sort un an avant une grosse production des Misérables prévue à la fin 2026, mais pour un budget qui sera trois fois plus conséquent, hein, puisque ce Jean Valjean a coûté 7 millions et l'autre va coûter au-delà des 20 millions. Rendez-vous donc l'an prochain. Un thriller horrifique où une sœur obsédée part à la recherche de sa sœur disparue dans une ville abandonnée, enveloppée de mystère. Nous parlons de Shelby Hawks.
Je peux vous aider ?
Elle m'a enfin laissé partir !
Drôle de projet que ce Shelby Hawks, et drôle de situation que de le voir avoir les faveurs du grand écran français. Car Shelby Hawks, c'est un film doublement anachronique, ce qui rend son existence intéressante pour pouvoir prendre la température de ce qu'on appelle le found footage en 2025. Alors c'est d'abord anachronique, car par essence, Shelby Hawks est un found footage, genre qui a connu sa gloire avec le projet Blair Witch ou Rec, mais dont les caméras et les caméscopes sont devenus par nature plutôt dépassés à l'ère de la post-vérité. C'est ensuite encore anachronique car ce film est l'œuvre d'un youtubeur américain qui va à l'encontre de tout ce que font ses collègues qui ont la chance d'atteindre le public des salles de cinéma. Alors le genre, s'il est tombé depuis un moment en désuétude, a connu quand même quelques sursauts, surtout venant du monde du jeu vidéo. On pense aux séquences terrifiantes avec les VHS immersives de Resident Evil 7 ou carrément tout le gameplay de Outlast où votre survie passera par un cadrage réfléchi. Et ce, sans mentionner un jeu Blair Witch sortant en 2019. Alors la surprise, c'est que passé ces 15 premières minutes, Shelby Hawks n'est pas vraiment un found footage et à la manière de Rec 3 bascule dans la vraie fiction avec mise en scène et mise en abîme.
Bienvenue chez les Paranormal Paranoids. Aujourd'hui, notre première intervention se fera dans la ville abandonnée de Shelby Hawks.
Derrière Shelby Hawks, il y a Chris Tuckman, un créateur de contenu YouTube pas forcément comme les autres. Alors il s'est fait connaître pour ses courtes productions horrifiques sur la toile et a su fédérer des millions de viewers. À la manière de David Sandberg qui s'était fait repérer avec son court Lights Out et qui est devenu dans le noir au cinéma, Stuckman a plutôt réussi son passage sur grand écran, mais il n'est pas venu seul. Car derrière Shelby Hawks, il y a aussi Mike Flanagan, l'un des conteurs horrifiques les plus doués de sa génération. De Oculus à Dr. Sleep en passant par Life of Chuck et ses séries comme Sermon de minuit ou The Haunting of Hill House sur Netflix, il a su être un garant de bonne narration dans le domaine de l'effroi. Il est d'ici, le jeune réalisateur a bien ciselé son premier long métrage qui aurait pu tomber dans tous les travers du court métrage YouTube à concept pour devenir une vraie série B agréable à regarder. Alors on y retrouve même dans son croque-mitaine des rappels de l'inquiétant Moonlight Man de l'adaptation de Jesse de Stephen King par Mike Flanagan. Shelby Hawks propose un pas de côté du traditionnel cheminement d'un film en found footage. L'enquête de l'héroïne qui cherche à savoir ce qui est vraiment arrivé à sa sœur n'atteint pas les sommets du brillant Lake Mungo, mais joue à sa manière sur les codes du genre comme M. Night Shyamalan avait su le faire avec son brillant The Visit qui utilisait le genre du found footage pour mieux nous faire littéralement un cours de montage. Alors, ce à quoi on pense ici, hein, balancé entre des rushs visionnés et ce qui se passe en temps réel pendant ces visionnages. Sans jamais atteindre la réussite de The Visit, Shelby Hawks justifie un tant soit peu son existence fragile en 2025 en confrontant les gens face à leur production audiovisuelle en guise de miroir de leur plus profond cauchemar. Mais c'est déjà bien.
Eh bien, ce Shelby Hawks est en salle depuis le 26 novembre. 24 minutes d'ovation pour un film, c'est beaucoup. Et c'est ce qu'a obtenu Kauter Benania pour son film La Voix de In Rajab, qui était présenté à la Mostra de Venise, où elle a remporté le Lion d'Argent. Nous en parlons maintenant avec Sofia et nous aurons le plaisir aussi d'entendre la réalisatrice.
Qui êtes-vous ?
Cinérama.
J'ai pas très bien saisi.
Chronique. Invité et nouvelle du 7e art.
Tu comprends ce que je veux dire ?
La réalisatrice, issue du documentaire Kauter Benania, le dit elle-même au sujet de son nouveau long-métrage de fiction Reconstitution. Ce film, j'aurais aimé ne pas le faire, ne pas ressentir le besoin de le faire. Et c'est sans doute qu'elle aurait aimé, surtout, que jamais ne s'éteigne la voix de la petite Hind Rajab, 6 ans, morte à Gaza dans une voiture assiégée par les militaires israéliens, après avoir supplié les secours du Croissant Rouge de venir la chercher pendant plus de 3 heures par téléphone. C'est ce moment précis que raconte le film, en plongeant spectateurs et spectatrices dans un huis clos, aux côtés des employés du Croissant Rouge, aussi déterminés à la sauver que bouleversés dans une course contre la montre où leur impuissance est intolérable. Comment envoyer une voiture de secours pour extraire cet enfant alors que tout le quartier est pris d'assaut par Israël ? Les employés du Croissant Rouge, situés en Cisjordanie pour leur part, doivent coordonner à distance une intervention, c'est-à-dire attendre le feu vert des gouvernements pour qu'un itinéraire routier soit autorisé à leur voiture de secours par Israël. Le fait est qu'une voiture est déjà là, dans la bande de Gaza, à quelques minutes seulement de celle dans laquelle se trouve la petite Hind, blessée, entourée des corps morts de sa famille. Mais il est impossible d'ordonner aux secouristes d'intervenir sans ce green light. Le film concentre notre attention sur cette tension, sur ses employés du Croissant Rouge et sur la petite Hind. Le bourreau, l'occupant, Israël, n'a pas de visage. En somme, on a là une masterclass de ce que peut encore le cinéma face à l'effacement des vies et des voix palestiniennes. Et ce n'est pas le public de la Mostra de Venise qui me contredira, puisqu'il offrait 23 minutes de standing ovation au film, un record. La voix de Hind Rajab y remportait d'ailleurs le Lion d'Argent. Archives sonores, voix et visages réels qui se fusionnent à ceux des comédiens et comédiennes, tout participe à brouiller la frontière entre documentaire et fiction de reconstitution, à l'image de ce que la réalisatrice expérimente déjà dans son cinéma. On pense à son excellent précédent, Les Filles d'Olpha notamment. Avec la rigueur qu'on lui connaît et une profonde sensibilité pour les histoires brisées, la cinéaste tunisienne traverse ici un territoire où éthique et esthétique se heurtent frontalement pour tenter de préserver ce qu'il reste, le témoignage, la dignité, la voix. J'ai eu la chance de rencontrer Kauter Benania et nous avons pu parler de sa démarche, de la responsabilité de filmer et de la manière dont on peut encore raconter aujourd'hui l'irreprésentable.
C'est un film en huis clos et pour moi c'était important de raconter le film, comme je l'ai dit, à travers la perspective de ceux qui ont reçu l'appel. Et ceux qui ont reçu l'appel, il se trouve qu'ils sont dans un open space, des bureaux. Et donc, l'idée de situer tout le film de leur point de vue suggérait automatiquement cette idée de huis clos. Et je me disais, comme le cinéma, c'est image et son, on a l'image du huis clos de ses employés et on a le son qui provoque le hors-champ. Et qui provoque d'autres images, haine dans la voiture, assiégée et ciblée. Donc c'est un huis clos, mais c'est un huis clos où il y a un deuxième lieu qui se passe dans le sang.
Allô, Tawarek Hilal Al-Ahmar Ramallah, Daf Al-Gharbiya, Omar Ma'ak, Tfaddal.
L'idée de faire un documentaire on va dire, pure. Je ne sais même pas si ça a un sens de dire un documentaire pur. Ne plongez pas, ne suggérez pas la possibilité de la sauver. C'est-à-dire, pour moi, quand j'ai entendu sa voix pour la première fois, comme je l'ai dit, j'avais l'impression qu'elle me demandait à moi de la sauver. J'étais là, dans le moment, dans ce moment-là. Et l'idée de faire un documentaire, c'est-à-dire, ça a eu lieu, je vais vous raconter comment ça a eu lieu. Et je me disais que cette sensation que j'ai eue, moi, je ne pouvais la traduire qu'en revenant et en situant les spectateurs dans le moment avant que le... On va dire que la... que sa mort arrive, et c'est aussi une manière de dire on aurait pu la sauver. En fait, être dans le moment, c'est revenir sur ce qui s'est passé encore et encore, et se poser cette question: pourquoi on n'a pas pu la sauver?
Hanout.
Moi, je suis réalisatrice et j'ai cet outil formidable qui s'appelle l'image. Je voulais quelque chose qui soit vertigineux, parce que je reviens toujours à cette sensation d'impuissance, l'impuissance vertigineuse. Comment traduire ça à l'image? Comment traduire ça avec les mouvements de caméra? Ça, c'était une longue discussion avec mon chef opérateur Juan Sarmiento, qui est extraordinaire et qui a su tout de suite... capter avec sa caméra à l'épaule. On était dans quelque chose d'installé, des bureaux, et pour moi c'était pas un film où on devait être installé à la caméra, c'est-à-dire il y avait quelque chose de l'ordre de l'urgence et oui, quelque chose de vertigineux qu'il fallait traduire en termes d'image et de son aussi.
Et des choses malheureuses, choses avec le caramel.
C'était Kauter Benania, la réalisatrice de La Voix de In Rajab, une réalisatrice qui a le don de très bien parler de ce qu'elle fait avec des mots très très simples, ce qui fait qu'on voit très très bien son intention. C'est maintenant le moment de jouer avec la filmographie de Scarlett Johansson, qui a sorti sur les écrans son premier film, Eleanor the Great.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Alors, je pense qu'il va y avoir des choses faciles dans ce blind test, mais des choses difficiles. Commençons peut-être facilement.
À mesure qu'on apprend à se connaître, à savoir ce qu'on veut, on se laisse moins voir. On domine les choses.
Ouais. La question, c'est de savoir ce que je vais bien pouvoir faire. Voilà. J'ai d'abord pensé écrire, mais... je déteste ce que j'écris, alors... Ensuite, tu passais à la photo, mais... c'est tellement nul. Toutes les filles ont une phase où elles veulent être photographes. Ou faire du cheval. Vous voyez le genre... on prend des photos de ses pieds...
Vous trouverez un jour, je suis pas... trop inquiet pour vous.
Alors, c'est trouvé.
C'est Lost in Translation, c'est le second film de Sofia Coppola.
Eh oui, film de 2003, deux âmes perdues se rencontrent à Tokyo, chacune en quête de sens dans un monde étranger. Leur complicité naissante transcende les barrières culturelles et l'ennui dans un mélange de mélancolie et de tendresse. C'est 1,3 million d'entrées en France pour ce film. Deuxième extrait. Alors, il se trouve que c'est un film où elle ne parle vraiment pas beaucoup, donc dans cet extrait, elle est agressée simplement.
Reste tranquille, je veux te regarder dans les yeux. Alors, Great, dis-moi, comment vont les choses là-haut? La composition du tableau est-elle arrêtée? Trouve-t-il l'inspiration en toi? Le pinceau du maître a-t-il enfin trouvé la clé de ton âme? Un beau fruit mûr qu'il ne reste plus qu'à cueillir. Reste tranquille, je veux te regarder dans les yeux. Alors, Great, dis-moi, comment vont les choses là-haut? La composition du tableau est-elle arrêtée? Trouve-t-il l'inspiration en toi? Le pinceau du maître a-t-il enfin trouvé la clé de ton âme? Un beau fruit mûr qu'il ne reste plus qu'à cueillir. Qu'attend-il pour le faire? Ton maître et moi sommes tombés d'accord. Je le paie pour qu'il fasse ton portrait, ma jolie.
Non!
J'ai attendu.
trouvé encore.
C'est La jeune fille à la perle.
Et oui, film de 2003 également. Une jeune servante de Delft attire l'attention du peintre Vermeer et devient sa muse. À travers ce portrait se dévoilent tensions, désirs et contraintes sociales dans le siècle d'or hollandais. 535 000 entrées quand même pour ce film avec Scarlett Johansson. Allez, un nouvel extrait d'un film avec l'actrice américaine.
Je vais bien.
Lincoln, je sais quand tu mens, parce que ta bouche sourit, mais tes yeux sont sérieux.
J'ai trouvé quelque chose.
Quoi ?
Un insecte.
Un insecte ?
Un insecte volant.
Je peux le voir ?
Je crois qu'il est entré par le conduit d'aération.
Mais je croyais qu'il n'y en avait plus depuis la contamination.
Moi aussi. Et il a échappé au détecteur pathogène.
Peut-être qu'il est trop petit.
Non, il n'est pas trop petit. Et comment il a survécu à l'extérieur d'abord ? Comment quiconque peut survivre ? C'est vrai, il trouve encore des gens, il les amène ici, mais d'où ils les sortent ?
C'est bien qu'ils trouvent des survivants. Pourquoi tu remets le bien en question ? Tu vois le mal partout.
J'ai juste l'impression qu'il y a quelque chose d'anormal.
De bonnes choses peuvent arriver. Je veux voir cet insecte.
Alors, c'était facile. C'est un réalisateur que tu admires.
Oui, c'est The Island de Michael Bay, même si ce n'est pas son meilleur.
Oh, loin de là. Loin de là. Parce que je trouve autant la première partie est plutôt bien réglée. Mais alors là, après, quand ça part dans l'action... Il y a vraiment, vraiment trop d'invraisemblance.
On voit que c'est ce qu'il attendait. On voit que la partie Aldous Huxley et mélange avec tout ce qu'a fait le XXe siècle de SF, hein, eugéniste, ça l'intéresse, mais que pendant un temps. Et puis quand il peut, il va tout faire péter.
Ouais. Et puis après, les deux personnages tombent d'un immeuble de 40 étages sans problème. Donc, dans un futur aseptisé, deux résidents d'un complexe découvrent que leur vie soi-disant parfaite est un mensonge. Leur fuite devient une course contre le temps pour échapper à un destin imposé et questionner l'éthique scientifique. 1,5 million d'entrées en France pour ce film de Michael Bay. Allez, un extrait pas facile, je pense, pour un petit film avec Scarlett Johansson.
Ma grand-mère a travaillé comme domestique pour qu'on ne soit jamais obligé de l'être. Et toi, fraîche moulue de l'université, tu vas choisir de te faire nanny.
Je signe pas un contrat à vie, c'est simplement une sorte de répit pour me remettre les idées en place. De toute façon, c'est bien payé et ça me permet de vivre à New York.
Moi aussi, j'y vivrai. Pour faire des études supérieures, pas pour être bonne d'enfant. En plus, tu mens à ta mère et tu as tort, tu le sais très bien.
Tout ça se passe si vite. Je comprends pas pourquoi t'es si énervée. Prends le temps de retomber sur tes pieds, écoute.
Mais je suis restée ici pendant mes cours d'université, ça suffit pas.
Bon, mais comment t'as trouvé un appartement aussi vite que ça ?
La banque, ils ont un excellent programme. Ils vont me jumeler à une autre stagiaire, c'est magnifique. Ça en a l'air.
Je pense que j'aurais dû prendre un film un peu plus facile.
J'avoue que ça ne me parle pas.
Ouais, je voulais une petite miette. Donc, c'est Journal d'une babysitter, film de 2006.
Rien, pas vu.
Bon, qui a réuni 63 000 spectateurs en France.
C'est pour ça.
Ouais, une jeune diplômée accepte un emploi de babysitter dans une famille new-yorkaise riche et exigeante. Entre servitude et humiliation, elle découvre la complexité des relations humaines et la difficulté de rester fidèle à soi-même. Voilà, petit film comparé à celui-ci avec lequel nous terminons.
Genre, ce truc que tu fais quand tu secoues tes cheveux, chaque fois que tu te bats, bras en l'air et tête en arrière, quand tu prends une espèce de pause, c'est ce que tu fais. T'aimes bien prendre la pause, t'es une vraie crâneuse.
Je suis pas une crâneuse.
Oh, tu parles, c'est une super pause. Mais on dirait que tu crois que le monde entier a les yeux rivés sur toi, à chaque fois.
À chaque fois que je pose, comme tu dis, c'est pour faire quelque chose de bien et pour compenser le mal et la souffrance qu'on a causé. Pour devenir plus qu'une simple tueuse.
Ah oui ? Bah tu te racontes des histoires. Parce que le mal et la souffrance sont notre pain quotidien, comme moi on t'a formé à tuer. Sauf que moi je fais pas la couverture des magazines. Et que tuer n'a pas fait de moi l'idole des cours d'école.
C'est troué.
C'est Black Widow ?
Oui, un film de 2021. Elle a joué dans de nombreux films, hein, aux côtés des Avengers, évidemment. Mais là, elle était... elle n'était pas toute seule, mais en tout cas, on parlait d'elle. Natasha Romanoff, ancienne espionne, affronte son passé pour protéger ceux qu'elle aime. Action, émotion et révélation se mêlent dans ce chapitre explosif du Marvel Cinematic Universe, MCU. Quasiment 1 million d'entrées en France, mais pas tout à fait. Je suis assez surpris. 909 000 entrées.
Bah, c'est pas très bien, hein, faut être honnête.
C'est vrai aussi. Ainsi s'achève ce blind test consacré donc à la filmographie de Scarlett Johansson. Maintenant, nous allons parler d'un monument qui fait son retour sur les écrans, film de la fin des années 80. Nous parlons de The Killer de John Woo.
J'ai quelque chose à dire.
Cinérama.
Et croyez-moi, ce ne sera pas long.
Alors, petite précision, Vincent, tu dis fin des années 80, c'est exact, il date de 89, mais en fait, il faut savoir que chez nous, il est sorti au ciné en 95.
C'est vrai.
en plein cœur de la Japanie, mais j'y reviens. L'année dernière, John Woo signait le remake de son classique The Killer. Alors si on était très heureux de revoir le génial réalisateur hongkongais revenir sur nos grands écrans et sorti en salle obscure exclusive à la France à cause de son casting et de son lieu de tournage, c'était peu dire que la déception était au rendez-vous, tant il semblait difficile pour John Woo de faire mieux que John Woo, et ce même si l'environnement de production et l'époque ne sont plus les mêmes. Alors entre-temps, les droits d'exploitation d'un peu plus de 150 films de l'âge d'or du cinéma hongkongais des années 80 et 90 ayant enfin été débloqué après 20 années de marasme juridique, nous pouvons à nouveau revoir briller ce temps glorieux qui a vu le 7e art être littéralement révolutionné par une nouvelle vague orientale sans laquelle bon nombre de gros films d'action actuels n'auraient jamais vu le jour, qui a remplacé les guerriers de Shambara et de Yu Xiapian par des gangsters et des tueurs à gages en trench coat et qui n'avaient pas besoin de recharger leurs armes pour éliminer des armées d'opposants, le tout filmé avec un romantisme absolu.
On s'arrête là, mais il y en a des kilomètres.
Nouvelle vague, trench coat, romantisme, des mots que j'ai soigneusement choisis à temps The Killer et l'hommage ultime de John Woo à un cinéma qui lui est cher, celui de François Truffaut, Jacques Demy et Jean-Pierre Melville. The Killer, c'est tout simplement son chef-d'œuvre ultime. Si, à toute épreuve, qui date de 92 et dont j'ai déjà parlé lors de sa ressortie en 4K il y a 3 mois, est LE film d'action ultime encore inégalé aujourd'hui, The Killer, en 89, constitue la clé de voûte de toute son œuvre, ce vers quoi tendait toute sa filmographie, ses thèmes, sa vision d'auteur et sa sensibilité. Où il dirige sa muse Chow Yun-fat dans le rôle de Jeff, sa réinterprétation du samouraï d'Alain Delon qui, lors d'un contrat qu'il exécute dans un club, blesse aux yeux Jenny, une chanteuse dont il va tomber amoureux. Rongé par la culpabilité, Jeff accepte d'éliminer l'un des parrains des triades afin de réunir la somme nécessaire à la transplantation de cornée dont Jenny a besoin. Vous vous en doutez, l'affaire tourne mal et Jeff se retrouve à la fois poursuivi par ses employeurs et par un policier acharné, l'inspecteur Lee. Alors ce dernier, d'abord décidé à lui faire la peau, va comprendre qu'il a beaucoup plus en commun avec ce hors-la-loi que les vrais hommes dignes d'un badge de loi et va l'accompagner jusqu'au bout de l'enfer des armes promis par leurs ennemis puissants et déterminés dans un ballet opératique mortel. The Killer est le film du début de la scission entre John Woo, réalisateur et Tsui-Hark, producteur, et le premier depuis leur fabuleuse collaboration au même poste sur le syndicat du crime 1 et 2 qui laisse Woo totalement libre de se réapproprier le polar tel qu'il l'entend. Woo va enfin se permettre, et pas que dans les scènes d'action, de laisser un spleen existentialiste et romantique totalement infuser son montage et de raccords audacieux à des arrêts sur image en passant par des actions montées en parallèle et des surimpressions baroques va exciter tout autant qu'émouvoir le spectateur qui ne s'attendait pas à un lyrisme chevaleresque aussi bouleversant. Qui a dit que l'émotion était incompatible avec un ralenti sur deux Beretta? Pour à toute épreuve, The Killer ressort de manière conséquente en France dans une nouvelle copie magnifique et il serait criminel de ne pas aller en profiter. C'est une page révolutionnaire du cinéma mondial qui revient sur les grands écrans, qui a vu l'Asie reprendre la France, qui avait réinterpréter l'Asie et qui convoque autant le ballet que la chanson de geste. Ce sont les demoiselles de Rochefort qui s'entre-déchirent pour mieux s'allier dans le sang et Jules et Jim qui vont défendre au calibre 12 une jeune Moreau en piéta sanctifiée. Si Hong Kong est déjà sous l'influence des deux syndicats du crime, l'Occident ne sera plus jamais le même. Rappelons qu'en 89, c'est aussi l'arrivée d'Akira au cinéma, soit autant d'œuvres séminales qui vont bouleverser la culture populaire, des anges gardiens de Jean-Marie Poiré au Matrix des Wachowski. John Woo, lui, achevait d'entrer dans la légende et son nom de devenir un adjectif maintes fois copié, mais jamais égalé.
Et ce film, donc The Killer, est dans pas mal de salles en France.
Je vous trouve si nerveux, quelque chose ne va pas ?
Terminé pour aujourd'hui.
Pas si vite.
Excusez-moi encore de vous avoir dérangé.
Ça ne me dérange pas le moins du monde.
Je ne comprends pas ce que vous essayez de me dire.
Il lui arrive quoi, elle ?
Au revoir.
Pardon ?
J'espère que nous aurons le plaisir de vous revoir.
De vous revoir.
Oui, ça ne fait aucun doute.
Ça ne servirait à rien de le nier.
Merci.
signer.
On se retrouve la semaine prochaine, Guillaume, et tu auras deux films.
Oui, je vais vous parler de L'Intermédiaire et de la nouvelle adaptation de Running Man de Richard Bachman, alias Stephen King, par Edgar Wright.
Et puis ce sera aussi l'occasion de jouer à un blind test et puis d'écouter une interview, celle de Mario Marton, qui était en compétition avec son film Fury au dernier festival de Cannes. À la semaine prochaine.